Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. L'Université nationale de Gyeongbuk a annoncé qu'il supprimerait le département d'éducation en français dans la faculté de langues européennes à partir de 2025. Cette décision intervient 53 ans après sa création en 1970. Par la suite de cette mesure, il ne reste que 3 universités en Corée du Sud qui disposent de départements d'éducation en français. L'Université nationale de Séoul, l'Université nationale de l'éducation et l'Université Hanguk des études étrangères. L'intégration et la suppression des départements d'éducation en langues étrangères s'accélèrent. L'Université nationale de Busan, par exemple, a décidé d'intégrer à partir de l'année prochaine le département d'éducation en français et en allemand dans les départements de littérature française et de littérature allemande, respectivement. Depuis l'année dernière, l'Université Hanguk des études étrangères a intégré le département d'études allemandes, françaises et chinoises dans le département d'éducation en langues étrangères et elle a sélectionné les premiers élèves. La raison directe de la fermeture successive des départements d'éducation en français et en allemand est le fait que l'on ne recrute plus de nouveaux enseignants en la matière. Après la disparition de ces départements, il est toujours possible de devenir professeur si les étudiants qui se spécialisent en littérature française ou en littérature allemande suivent des cours de formation pédagogique. Cependant, la tendance actuelle est de ne plus nommer de nouveaux enseignants. Le bureau d'éducation de Séoul a recruté un professeur de français et un d'allemand l'année dernière pour la première fois depuis 22 ans. Dans d'autres régions, il n'y a eu aucun recrutement d'enseignants dans ces matières dans les lycées publics depuis 2008 ou 2009. Dans les années 1990, l'allemand et le français étaient des langues étrangères de premier plan. En 1990, il y avait plus de 1000 enseignants d'allemand et environ 700 enseignants de français dans tout le pays. Mais l'an dernier, ces chiffres ont chuté jusqu'à 21 et 45 respectivement. Sur le terrain, on dit que la demande pour l'allemand et le français a diminué. En raison de la popularité croissante du chinois et du japonais, les langues européennes sont devenues relativement moins convoitées. Lorsque la deuxième langue étrangère a été introduite dans l'examen d'entrée à l'université en 2001, le taux d'élèves optant pour l'allemand ou le français dépassait la moitié des candidats, à savoir 31 et 24 % respectivement. Cependant, l'année dernière, ce taux a dégringolé à 4 et à 5 %. En revanche, pendant la même période, le taux de ceux qui ont choisi le chinois est passé de 9 à 17 %. La diminution du nombre d'étudiants et les changements dans le système d'admission des universités ont également affecté l'enseignement des deuxièmes langues étrangères. Depuis que celles-ci sont devenues optionnelles, de plus en plus d'élèves choisissent de ne pas passer cette épreuve. Ainsi, l'an dernier, seuls 7% des candidats l'ont passé. En juillet 2020, le ministère de la Défense a autorisé les soldats à utiliser leur téléphone portable dans la soirée en semaine après leurs activités militaires. En conséquence, les soldats peuvent se servir de leur téléphone portable après les activités jusqu'à 21h en semaine et de 8h30 à 21h le week-end. 4 ans après la mise en place de ce système, des effets positifs ont été observés, comme l'aide à l'adaptation à la vie militaire en permettant aux soldats de communiquer avec l'extérieur, la dissuasion contre les abus au sein de l'armée. Cependant, cette initiative a également soulevé quelques problèmes, tels que des préoccupations en matière de sécurité, la croissance de risques de criminalité liés aux jeux d'argent et à la drogue. Dans ce contexte, au second semestre de l'année dernière, le ministère a testé l'augmentation de temps de possession des téléphones portables auprès de 17 000 soldats. Cet essai a été effectué sous la forme de 3 catégories, minimum, intermédiaire et autonome, en fonction de la durée. La catégorie minimum qui permet l'utilisation des téléphones portables entre l'appel matinal et 8h30 n'a satisfait pleinement ni les soldats ni les officiers. Car pour les premiers, ils ne peuvent pas se servir de leur appareil pendant la pause déjeuner. Les seconds, de leur côté, doivent récupérer et distribuer les téléphones 2 fois par jour, le matin et le soir, ce qui augmente leur charge de travail. La catégorie la plus plébiscitée par les soldats était naturellement le type autonome, qui leur permet de posséder leur téléphone 24 heures sur 24. Selon un sondage, 80% des soldats ont choisi cette option. Cependant, des problèmes apparaissent pendant la nuit. Certains d'entre eux ne respectent pas l'interdiction d'utiliser leur appareil après l'heure du coucher. Les autorités militaires ont considéré la catégorie intermédiaire comme une solution de compromis. Il s'agit de distribuer les téléphones après l'appel matinal et de les récupérer à 21h. À travers le test, ce modèle s'est avéré efficace non seulement pour les soldats, mais aussi pour les officiers. De ce fait, le ministère prévoit de mettre en place, à titre d'essai, le modèle intermédiaire à partir de juillet. À l'issue de ce test, il vérifiera son fonctionnement et réfléchira à l'orientation de ce système. Pour notre première pause musicale, voici une chanson de circonstance, John Algonet, Je téléphone, interprétée par Bosco Bosco.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 17 mai, vous êtes en compagnie de Koo Jong-sun. Selon le Service national de l'assurance maladie, en 2021, plus de 200 000 Sud-Coréens ont été diagnostiqués avec un trouble panique. Il s'agit d'un taux 2,5 fois plus élevé qu'il y a 10 ans. Si une crise soudaine avec des battements de cœur accélérés, une sensation d'étouffement et un risque de s'évanouir se manifeste pendant plus d'un mois, un diagnostic de trouble panique est établi. En Corée du Sud, le trouble panique peut être appelé « maladie de la quarantaine ». Car en 2021, il y a eu 47 000 cas de troubles paniques chez les personnes âgées de 40 à 49 ans. Cela représente 23% de la totalité, soit le taux le plus élevé de toutes les tranches d'âge. Cela signifie qu'une personne sur 4 qui en souffre est un quadragénaire. Il s'agit du double par rapport à 2012. Selon les experts, dans le monde, le trouble panique se manifeste souvent au début ou au milieu de la vingtaine. La prévalence élevée de patients dans la quarantaine est une tendance particulière en Corée du Sud. Les quinquagénaires atteints de cette maladie sont les plus nombreux derrière les quadragénaires. Ainsi, si on combine ces deux catégories de personnes, leur taux dépasse les 40%. La cause exacte du trouble panique n'a pas encore été clairement identifiée, mais les spécialistes notent qu'il y a un lien élevé avec le stress. Effectivement, la plupart des personnes ayant vécu des crises de panique ont accumulé un stress mental avant de présenter des symptômes. D'après un psychiatre, les quadragénaires sud-coréens, qui jouent le rôle de pilier de la société, subissent un stress particulièrement élevé. Il existe de nombreux cas d'individus de cette tranche d'âge qui souffrent de troubles paniques en raison de problèmes liés à leurs parents ou à leurs enfants. De plus, sur leur lieu de travail, ils se retrouvent pris en sandwich entre une génération plus âgée qui est autoritaire et une génération plus jeune qui est autonome. Le trouble panique peut toucher environ 3 à 5% de la population. Cela signifie qu'au pays du matin clair, le nombre de personnes qui en souffrent pourrait dépasser les 2 millions. De ce fait, beaucoup prévoient que ce type de patient devrait se multiplier à l'avenir. À Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud, il y a une salle de cérémonie dénommée Shinshin. Il s'agit d'un établissement très célèbre dans tout le pays. Son fondateur et ancien patron, Peng Nak Sam, l'a géré pendant 55 ans et a organisé des cérémonies de mariage gratuites pour 14 000 couples. Après son décès, le mois dernier, son fils Peng Nam-moon a repris la direction de la structure comme son père l'a fait de son vivant. L'histoire de cette salle remonte aux années 60. Après avoir épousé sa femme, le défunt Peng Nak Sam s'est lancé dans une carrière de photographe. Il a vu de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas se permettre de se marier pour des raisons financières. Il a donc décidé de proposer des mariages gratuits. Peck a ainsi ouvert son établissement en 1967. Il a offert gratuitement aux jeunes mariés tous les services pour la cérémonie de mariage, l'utilisation de la salle, la location de costumes et les photos de mariage. La plupart des clients étaient des jeunes couples qui ne pouvaient pas se payer une cérémonie coûteuse. Peck a joué le rôle de présentateur de cérémonie et de photographe et son épouse Choi Pil-sun s'est occupée de la location des tenues, des essayages, de la préparation des bouquets et de la nourriture utilisée lors des événements. Peng Nam-moon, qui a succédé son père, est diplômé en photographie et en vidéographie. Selon lui, depuis la mort de son père, il n'y a pas de grand changement dans cette salle de mariage, mais il a reçu beaucoup d'appels qui demandaient si cet établissement était toujours en activité. Même après le décès du fondateur de cette structure, de nombreux couples souhaitent s'y marier. Ces deux dernières semaines, 9 couples de différentes villes, y compris Séoul et l'île méridionale de Jeju, y ont célébré leur union. Et 6 autres couples vont se marier ce mois-ci. Comme avant, l'utilisation de la salle de mariage est gratuite. Mais comme le maquillage et la coiffure sont confiés à des spécialistes non affiliés à la structure de Peck, ils sont payants. Alors à part ces dépenses, les couples mariés n'ont qu'à payer des frais minimes pour le tirage de photos et la fabrication d'albums de photos de mariage. Avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter la chanson de Isora, Changhun, Demande en mariage.
Bonsoir à tous. De mai, chaude et douce pluie, fait belle fleur et riche épi des ludictons.
Voici la question Tendez l'oreille du mois de mai.
Dans un de nos derniers numéros de Séouscope, nous avons eu l'honneur de recevoir le pianiste de jazz Odeouk, connu sous le nom de Eo en France.
Il nous présentait son nouvel album intitulé Will It Be Spring Tomorrow,
dans lequel Tan Toon Song est actuellement le morceau le plus populaire au pays du matin clair.
Que veut dire le mot Tan Toon?
Pour vous faciliter la tâche, voici plusieurs propositions.
Papa, tonton, tati, tam-tam.
Pour trouver la bonne réponse, réécoutez l'interview de Odeouk dans Séouscope.
Bonne chance à toutes et à tous.
Et merci de votre fidélité.
Récemment, un roman traitant de l'histoire de l'épouse du premier président de la Corée du Sud a été réédité. Ce livre, intitulé Francesca, raconte l'histoire de Francesca Dono Lee, la femme de Lee Seung-man. Elle est née en Autriche en 1900 et a épousé ce dernier en 1934. L'auteur de cette œuvre est Lee Soon-hae, une Sud-Coréenne qui réside en Autriche depuis longtemps après avoir épousé un Autrichien. En 1989, elle a rencontré Francesca Lee dans la résidence privée de l'ancien président. Après plus de 15 ans de préparation, elle a publié en 2005 en Corée du Sud un livre intitulé « Francesca Lee's Story ». Et dernièrement, elle a réimprimé cet ouvrage, qui était épuisé, en 2000 exemplaires sous le titre « Francesca ». Pour fêter sa parution, elle a organisé la semaine dernière une cérémonie de publication. Dans une interview avec l'agence de presse Yonhap, elle a déclaré qu'elle avait décidé de republier son bouquin en petite quantité car beaucoup de ses connaissances souhaitaient le lire. Elle a aussi demandé au lecteur de considérer ce roman comme l'histoire d'amour d'une femme occidentale mariée à un homme coréen. L'œuvre relate l'histoire de Fanny, le surnom de Francesca, divorcée et âgée de 33 ans. Elle rencontre Lee Seung-man, âgé de 58 ans, à Genève, se marie avec lui et vit en tant qu'épouse du premier président sud-coréen. Cependant, l'auteur a ajouté son imagination aux faits historiques et a centré l'histoire sur la relation amoureuse entre Francesca et Lee Seung-man. Elle a souligné que Francesca Lee était une femme qui a vécu au XXe siècle avec un grand courage. L'auteur a indiqué qu'elle voulait présenter sa vie dramatique sous forme de roman. Cette nouvelle version inclut des photos de Francesca prises de son vivant. Lee Seung-man est parti en Allemagne pour poursuivre ses études après avoir terminé son cursus à l'université. Là-bas, elle a rencontré son mari autrichien et l'a épousé. Plus tard, lorsqu'elle est retournée dans son pays natal, elle a rencontré Francesca Lee par hasard, ce qui l'a finalement conduite à écrire ce roman. Selon elle, l'ancienne première dame portait toujours un hanbok, le costume traditionnel coréen. Elle semblait légèrement têtue, mais également gentille. Le roman Francesca a également été publié en allemand en Autriche l'année dernière. Il est prévu qu'il soit adapté au cinéma par un réalisateur autrichien. Samedi dernier, il a plu entre 5 et 10 mm dans le sud-est de la Corée du Sud. Comme chaque année, des dizaines de milliers de jeunes crapauds qui vivaient dans l'étang écologique de la rivière Uncheon-chon dans l'arrondissement de Yeonje à Busan ont commencé leur grande migration. Les amphibiens tels que les crapauds et les grenouilles sont sensibles à la sécheresse et peuvent mourir de dessèchement. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, les bébés crapauds se déplacent instinctivement vers les montagnes lorsque la pluie arrive. Ainsi, chaque année, pendant cette période, les habitants de cet arrondissement peuvent observer la grande migration de ces petits vertébrés. Il est estimé que des dizaines de milliers de jeunes crapauds ont pris part à l'exode ce jour-là et se sont battus pour traverser une route très fréquentée par les véhicules et se rendre vers une école primaire située de l'autre côté de la chaussée. Face à ce déplacement massif, une opération de sauvetage a été lancée. Dès l'aube, des activistes environnementaux étaient sur le terrain pour aider ces petits animaux à traverser cette route à deux voies. Cela fait quelques années qu'ils participent à ces activités de secours. Les équipements qu'ils utilisent principalement sont des pinceaux, de petites assiettes ou des seaux d'eau. Des centaines de crapauds ont été ainsi transférés de l'autre côté de la chaussée. Malgré ces efforts, il n'a pas été possible de prévenir complètement les écrasements de crapauds par les voitures sur la route. Depuis l'année dernière, des clôtures ont été installées le long de la rivière pour prévenir les écrasements des amphibiens près de l'étang. Cependant, le problème n'est pas entièrement résolu. Afin d'augmenter leurs chances de survie, les spécialistes proposent de créer des passages écologiques pendant la période de migration qui se déroule de mai à juin et de détourner la circulation des voitures sur la route empruntée par les bébés crapauds. Et voilà, c'est le moment de retrouver Tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Girls' Generation, Into the New World, vers le Nouveau Monde.
Bonsoir à toutes et à tous. Pas de film en compétition pour la Palme d'Or pour la Corée du Sud de cette année à Cannes, mais 5 films sur la croisette pour se consoler. L'édition 2023 du 16 au 23 mai sera la première présidée par Iris Knobloch, l'ex-PDG de Warner Bros. France et l'égérie de Pinot et Pigas. Autrement dit, le grand capital et Hollywood s'emparent directement du festival. Voyons ça de plus près. On l'attendait depuis longtemps déjà. C'est le nouveau film de Kim Ji-hoon, le célèbre réalisateur de I Saw the Devil et de A Bittersweet Life, qui présentera dans La Toile, en hors compétition. Le titre international est Cobweb. On y retrouvera la star Song Kang-ho aux côtés de la mignonnette Im Soo-jung, qui jouait déjà dans Tales of the Sister, du même réalisateur. De quoi s'agit-il? Kim Ji-woon avait plusieurs fois dit dans la presse que le plus dur pour lui était de terminer un film. Il reprenait déjà ce qu'un réalisateur célèbre assez proche de lui, en inspiration, Brian De Palma, n'avait cessé de claironner, et avec raison au vu de ses films comme Le Bûcher des Vanités ou Body Double. Kim Ji-woon se prend au mot, et ce sera donc une sorte de film dans le film à propos d'une fin insatisfaisante qu'il faudra refilmer. Le scénario prend le prétexte d'un vieux film des années 70 à retourner. Le scénariste est Shin Yeon-shik, connu pour ce genre de mise en abîme, notamment pour le cinéaste Kim Ki-dok dans Rose Play en 2013. Shin est lui aussi réalisateur, plutôt de films indépendants, peu connus, mais il vient de tourner avec Song Kang-ho un gros budget intitulé One Win. Bref, Baronson et JTBC, qui est lié à Warner Bros., ont peut-être misé sur un bon tandem pour participer à Cannes. Kim Ji-woon ne remportera donc pas encore de prix sur la croisette, mais il avait été couronné de succès pour les films de la plage avec A Bittersweet Life en 2005. La section se nomme Séance de minuit désormais et un film sud-coréen y sera projeté.
어느 깊은 가을밤, 잠에서 깨어난 제자가 울고 있었다. 그 모습을 본 스승이 기이하게 여겨 제자에게 물었다. 무서운 꿈을 꾸었느냐? 아닙니다.
Les projections gratuites nocturnes sur la plage de Cannes sont des succès presque tous les ans. Les films sud-coréens ont une grande part dans ce phénomène. Citons Train to Busan ou encore The Merciless et The Spies Gone North. Pas toujours de grands films donc, mais une touche commerciale certaine. En 2005, le film de Kim Ji-woon, A Bittersweet Life, avait commencé là sa carrière internationale, en ameutant les foules dans le vent glacé et le sable chaud cannois. Cette année, le film Project Silence de Kim Tae-gon sera dans les séances de minuit. On y retrouvera l'acteur Lee Sung-kyun, déjà vu dans Parasite. Le scénario parle de l'écroulement d'un pont menant de Séoul à l'aéroport d'Incheon et d'un père qui tente de sauver sa fille. Et il paraît qu'une bête inconnue, ou plusieurs, viendront pimenter la sauce. Que demande le peuple? On espère juste qu'il n'y aura pas trop de brouillard dans le film pour qu'il soit bien visible dans la nuit cannoise.
그래도 여러분 아쉽죠. 상당히 괜찮은 아줌마였거든 그 양반이.
네.
그럼 회사에 손을 쫙 잘시켜.
Deux autres films auront les honneurs des sections Un certain regard et la semaine internationale de la critique. Hopeless, d'abord de Kim Chang-hoon, qui tourne là son premier film avec la star Song Joong-ki. Song aurait pris du poids pour jouer un rôle de gangster sur le retour. Il rêverait de vivre une vie paisible auprès de sa maman, dit l'annonce du film. Mais voilà, il n'y a que des truands dans son bled paumé. Et on devine que c'est le gangstérisme qui va en sortir gagnant. Le film aurait pu passer à la semaine de la critique qui d'habitude s'occupe des premiers films. Mais ce sera Sleep de Jason Yu qui sera en compétition. Et là, surprise, car on y retrouve l'acteur Lee Sung-kyun aux côtés de Jong Yoo-mi. Ce serait l'histoire d'une femme enceinte qui s'inquiéterait de voir son mari parler la nuit. Cela virerait à l'horreur. Et évidemment, il faudra l'intervention d'une chamane. Voilà du mystère pour compenser le dernier film de Hong Sang-soo, venu en visite, comme chaque année, sur la croisette. Cannes n'aurait pas été Cannes sans un film de Hong Sang-soo. Cette fois, c'est la section de la quinzaine des réalisateurs qui est à la manœuvre. In Our Day verra le retour de la muse du cinéaste, Kim Min-hee, dans le rôle principal, aux côtés de Ki Joo-bong. La photo de promotion du film avec Ki Joo-bong, assis devant une bouteille de whisky, annonce peut-être un changement dans la filmographie de Hong Sang-soo. Aurait-il abandonné le Seju? C'est ce que nous verrons bientôt avec le bilan de ce festival de Cannes sous la coupe d'Hollywood.
Voilà, ainsi se termine cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.